Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des échauffourées ont donc éclaté vendredi soir aux 24 colonnes après l'annonce du verdict de l'affaire Axel Daurier. Les individus tentant de pénétrer dans la salle d'audience ont frappé des policiers qui leur barraient l'accès. Deux suspects qui avaient pris la fuite après les faits ont été arrêtés samedi matin à Mézieux et Vaux-en-Velin. Un troisième homme, habitant à Décines, a été interpellé dimanche et placé à son tour en garde à vue pour des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Les faits s'étaient déroulés juste après l'énoncé du verdict. Une enquête a été ouverte également pour faire la lumière sur un possible salut nazi d'un des frères de la victime après l'énoncé du verdict. Youssef Tebal, le conducteur de la Golf qui avait traîné Axel Daurier sur 800 mètres à Fourvière, a été condamné à 12 ans de prison. A noter que condamné pour non-assistance à personne en danger, le passager du véhicule Mohamed Yeloul écope lui de 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. La décision est tombée vendredi. La firme américaine Uber a été condamnée à verser près de 17 millions d'euros de dommages et intérêts, d'indemnisation, de remboursement ou de salaire à quelques 139 chauffeurs VTC lyonnais. Ils ont obtenu donc gain de cause devant le conseil des prud'hommes. Ils dénonçaient la relation contractuelle qui les liait à la plateforme et poursuivaient l'entreprise américaine en justice afin que leur contrat soit requalifié en contrat de travail. Pour la première fois en France, un groupe de chauffeurs VTC obtient donc gain de cause face à la plateforme. Le parquet pourrait entamer des poursuites contre Uber pour travail dissimulé. Uber qui se dit déterminé à faire avancer la question des droits des travailleurs des plateformes, mais il annonce également interjeter appel de la décision des prud'hommes lyonnais.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Aujourd'hui débute le Festival de l'Apprendre. C'est chaque année le rendez-vous qui rassemble les acteurs qui participent à l'éducation et à l'apprentissage tout au long de la vie. Toute la semaine, des tables rondes et des événements se tiendront sur la métropole de Lyon pour échanger à propos des nouvelles manières d'apprendre, apprendre à prendre soin des autres et de la planète. C'est le mot d'ordre du festival qui innove cette année. Pour la première fois, une journée sera dédiée en effet aux professionnels de l'éducation, parce que si les façons d'apprendre évoluent, les façons d'enseigner aussi, fini le rapport avec le professeur qui sait et l'élève qui écoute. Les enseignants prennent aujourd'hui le rôle d'accompagnateurs et peuvent apprendre à créer des projets avec les élèves pour dépasser le simple cadre de l'école. Un documentaire à ce sujet sera justement mis à l'honneur pour clôturer le festival samedi. Il s'intitule « Ensemble, ça change » et a été réalisé par l'association Imagineo qui croit au pouvoir d'agir des enfants. Notre journaliste Madeleine Clunia est allée à la rencontre d'Angélique Figari, cofondatrice de la Maison de l'Apprendre qui porte le festival, de Véronique Rizzi, directrice fondatrice d'Imagineo, et d'Agnès Batty, chef du département innovation, expérimentation et recherche de l'école académique de la formation continue.
On n'apprend quasiment jamais tout seul. Les situations qu'on vit sont des sources d'apprentissage et elles sont nourries d'interactions avec d'autres personnes. Quand on est à l'école, même si on est en face à face avec un enseignant ou même si on est sur une ressource pédagogique, elle a été produite par quelqu'un à un moment donné, elle a été adaptée pour qu'elle soit la plus accessible possible et qu'elle puisse être transmise dans les meilleures conditions. Donc finalement, cette fonction d'apprendre, elle est toujours liée à l'autre. Et dans le fait de transmettre, on démultiplie la ressource parce que celui qui a appris quelque chose peut, dans les meilleures conditions d'appropriation, le transmettre à son tour à d'autres. Et on est vraiment dans une démarche de relier les gens autour de connaissances, de partage de connaissances, d'expériences, ce qui est très intéressant d'observer depuis ces dernières années. On sent une ouverture et une véritable dimension de parité d'estime, c'est-à-dire que l'image qu'on a un petit peu ancienne, historique, de celui qui sait et celui qui apprend, donc qui avant d'apprendre ne sait pas, est un peu déconstruite. On maîtrise les uns les autres différentes connaissances, on mobilise différentes compétences et elles vont venir en résonance les unes par rapport aux autres à l'occasion des rencontres qu'on va faire et des opportunités pédagogiques qui vont s'ouvrir à nous. Je crois que cette action de transmettre son expérience ou sa connaissance, d'accompagner le développement d'une compétence chez quelqu'un, c'est finalement un formidable levier de lien social. Ça rassemble les gens, ça permet de consolider cette rencontre autour du fait de grandir ensemble. Ça sera notamment justement l'occasion de présenter un film documentaire qui a été réalisé par l'association Imagineo, qui s'intitule « Ensemble, ça change » et qui montre justement le parcours d'enfants dans l'institution scolaire, accompagnés dans le développement de leur capacité d'agir, d'être à l'écoute de leurs préoccupations, de leurs envies, de pouvoir contribuer au projet de société et de les accompagner pas à pas dans cette citoyenneté active. C'est aussi un des projets dont on peut être très fier sur le territoire et qui non seulement est inspirant pour imaginer des formats qui s'appliquent à d'autres tranches d'âge ou à d'autres types d'organisations, mais aussi qui est un véritable tremplin du passage à l'action pour se dire chacun individuellement comment est-ce qu'on pourrait avoir envie de rejoindre une dynamique de coopération avec d'autres.
Et justement, Véronique Ridi, vous êtes directrice fondatrice de l'association Imagineo. Donc c'est cette association-là qui a fait le documentaire « Ensemble, ça change ». Donc vous montrez un projet éducatif qui s'est déroulé dans le collège d'Argent à Lyon. Donc c'est un projet mené avec les élèves pour qu'ils développent donc des projets des projets citoyens, en fait, comme vous venez de le dire, Angélique. Quelle est la vocation de ce documentaire ?
Alors, ce documentaire, il a vocation, en fait, d'inspirer et de fédérer les acteurs de l'éducation. Alors, si je dis les acteurs de l'éducation, finalement, c'est au sens très, très large, parce que c'est évidemment des enseignants qui font déjà des choses dans leurs établissements, des enseignants qui ont envie de faire des choses, mais qui osent peut-être pas encore, parce que les conditions sont pas à 100% favorables. Mais bon, nous, on encourage à se lancer un peu, oser bouger et faire des choses, expérimenter des choses, mais aussi les acteurs au sens large, parce que on parle de parents, on parle d'acteurs associatifs, on parle d'élus, de collectivités. Donc finalement, tout le monde a un rôle à jouer dans l'éducation, et l'idée de ce documentaire, c'est de donner envie de s'y mettre ensemble pour que ça change, pour que la société change d'un côté, mais aussi pour qu'on transforme l'éducation, ce qui est absolument nécessaire pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain.
Donc ce documentaire a vraiment un rôle important à jouer selon vous dans l'éducation. Comment vous allez le diffuser ?
L'avant-première a eu lieu en décembre dernier à l'Institut Lumière, et là c'est la deuxième projection publique qui va avoir lieu lors du Festival de l'Apprendre. Et ensuite, ce qu'on prévoit, c'est toute une série de projections qu'on va organiser en partie dans des établissements scolaires, des projections déclic qu'on souhaite proposer aux enseignants, aux équipes pédagogiques pour visionner le documentaire et voir qu'est-ce qu'ils font de cet élan, de cette inspiration qu'ils peuvent avoir grâce à ce visionnage pour travailler en équipe ensuite, pour bouger les choses à leur échelle. Et d'autres projections, projections ateliers, projections thématiques qu'on va organiser au courant de l'année.
Donc ce documentaire a pour but de montrer à la communauté éducative ce qu'elle peut faire. C'est quand même comme un peu une sorte de formation finalement, de montrer ce qui est possible. Et donc vous, Agnès Batty, vous êtes chef du département innovation, expérimentation et recherche à l'École académique de la formation continue. Et donc vous avez justement cette vocation de former le corps enseignant. Et justement, qu'est-ce qui va se passer pendant cette journée qui leur est dédiée pour la première fois au Festival de l'Apprendre ?
Parler des formations qu'on propose aux enseignants, parler d'innovation, ce qu'on fait dans l'accompagnement de l'innovation, puisqu'on fait aussi des formations pour nos accompagnateurs de projet. Tout à l'heure, imaginez, vous parliez d'accompagnement. C'est vrai que la posture de l'enseignant change et on est de plus en plus dans un rôle d'accompagnateur. Et nous, en tout cas, pour accompagner nos équipes, on est facilitateur et accompagnateur, et que si on change aussi les postures des enseignants, on pourra s'adapter plus facilement au changement de posture des élèves, puisque l'éducation évolue et donc on doit aussi évoluer dans notre façon d'enseigner et de former.
Oui, parce que là, jusqu'à présent, les professeurs n'étaient pas trop formés à ça, justement, à cette posture d'accompagnateur.
Alors maintenant, dans les INSPE qui sont les instituts, donc pour former les enseignants, il y a toutes sortes d'évolutions pour permettre justement d'adapter ce changement de posture. Mais nous, particulièrement au département innovation et expérimentation, on est assez sensible à ce changement de posture et on fait des formations un peu innovantes, puisque on travaille par exemple sur l'estime de soi, la confiance en soi, la gestion des émotions, animer une réunion, gérer les conflits avec nos accompagnateurs de projet, puisqu'on a une trentaine d'accompagnateurs de projet qui travaillent avec nous. Je dirais que c'est un sujet qui m'est particulièrement cher. cher puisque je suis formée et depuis un an coach professionnel. J'ai fait une formation de coaching parallèlement parce que je pense que l'accompagnement est nécessaire aussi pour les enseignants et pour tous les agents de l'éducation nationale.
Et cette journée qui est dédiée aux professionnels, elle sera réitérée dans les prochains festivals ?
On espère que les autres années vont pouvoir justement pérenniser cette action qui est enrichissante, je pense, pour tout le monde parce que il y a une méconnaissance réciproque finalement de ce qui se passe au niveau de l'éducation. Et l'éducation aujourd'hui, elle s'enrichit de toutes les parties prenantes qui sont autour de l'éducation nationale.
Le festival de l'apprendre tout au long de la semaine à travers différents lieux de la métropole. Japon, France et Italie, ce sont les nations déjà primées en 2021 qui sont montées ce week-end sur le podium de la Coupe du Monde de la pâtisserie. Le Japon a décroché le titre, la France a dû se contenter de la deuxième place. Pour la première fois, un prix spécial éco-responsable a été remis et attribué au Canada. La finale du Bocuse d'Or, c'est donc ce soir. Cette Coupe du Monde de la cuisine réunit 24 participants de 24 pays différents. 12 premiers pays ont concouru hier. Les 12 autres réaliseront leurs épreuves aujourd'hui. Au programme pour les cuisiniers, une première partie artistique, ils doivent dresser un plateau pour 12 personnes d'une pièce de Lotte et de Saint-Jacques avec deux garnitures végétales. Pour la seconde partie, les concurrents doivent cette fois-ci réaliser un menu entrée plat dessert pour donner envie aux enfants de manger de la courge. Pour l'occasion, chaque assiette est dégustée par un juge professionnel et un enfant. Un jury double et même triple, puisqu'il n'y a pas que le goût qui est évalué. Tout un jury cuisine qui ne déguste pas les plats accompagne les participants tout au long du concours pour noter la tenue du box. C'est le cas de Jérémy Galvan, chef une étoile au Michelin, lyonnais d'adoption qui a son restaurant dans le Vieux-Lyon. Il a jugé hier les box du Japon et de la Suède et s'occupera aujourd'hui de la Finlande et de la Corée du Sud. Il a reçu notre journaliste Madeleine Clunia dans son restaurant pour parler de ce que représente pour lui cette place de jury des Bocuse d'Or.
Je suis hyper honoré d'avoir été choisi parce que c'est vrai qu'on ne pose pas de candidature pour être jury. C'est ce que vous dégagez dans votre travail et vos convictions qui font que les personnes vous appellent. Et en plus de jury cuisine, je trouve que c'est hyper touchant parce que je suis en cuisine, donc je suis pas le jury de dégustation, je vais pas déguster les plats, mais par contre je suis là pour être accompagnant avec les personnes qui vont passer le concours, à faire attention que la relation entre le chef et le commis soit dans la bienveillance, d'être là pour tous les problèmes qui pourraient être confrontés et de veiller à la bonne hygiène et la bonne tenue du box.
Donc c'est intéressant aussi pour vous de voir comment ça se passe parce qu'ils travaillent peut-être différemment comme ils viennent d'autres pays, peut-être que c'est une différence de pratique dans la cuisine et aussi entre eux du coup.
Enfin, pour nous en tant que jury c'est génial parce qu'on rencontre plein de chefs différents qui travaillent différemment, qui ont une manière de se préparer différente, qui ont des techniques différentes. Je trouve que pour nous ça nous donne une vision globale sur le monde de la gastronomie qui est géniale. Ouais.
C'est quoi qui vous plaît dans ce fait d'être jury ?
Je suis pas un jury qui est là juste pour dire ah il a pas fait ça comme ça. Oui, c'est pas pour la note, pour noter la personne, c'est pour être là, faire en sorte que la personne ait tout pour être dans la réussite. Et après que le meilleur gagne. Le rôle du jury pour moi il est là. Il est de ne pas être celui qui va chercher la petite bête. C'est celui qui va mettre en garde. Attention là vous pouvez pas faire ça. Attention là niveau d'hygiène ça c'est pas bon. Mais par contre je suis là pour vous. Et on mettra tout en œuvre s'il y a un problème quelque part pour que vous soyez pas pénalisé, vous faire avancer.
Et donc vous allez aussi rencontrer d'autres chefs qui sont jurés comme vous. Et donc pareil il y aura un échange avec eux.
Oui tout à fait. Après pendant le Syrah nous c'est un peu la course parce qu'il y a les moments en Syrah. Mais après tous les soir il y a quelque chose aussi. On a un soir où c'est le repas des grands chefs, où on se retrouve tous. Il y a un soir où il y a le repas après la remise du trophée du Bocuse d'Or, où on fait une grosse soirée. Donc il y a des moments, il y a plein de moments où on se retrouve aussi en tant que chef. Et c'est le carrefour du monde de la gastronomie. Donc il y a les chefs du monde entier qui arrivent de partout. Donc les rencontres sont belles. On a tous une vision différente et on a tous une manière de voir les choses et je trouve que c'est hyper intéressant.
Je voulais juste revenir donc, sur la relation entre le chef et son commis parce que c'est au cœur des Bocuse d'Or. Vous le ressentez comment dans votre cuisine ?
Le management des équipes et la relation avec les équipes elle est essentielle. Si on veut que le collaborateur se sente bien et ait du plaisir à travailler et se donne à 200% dans ce qu'il fait, il faut être dans l'accompagnement, dans la bienveillance et pas dans le déchargement d'émotions. Voilà.
Ce concours avec la relation entre le chef et son commis, c'est aussi du coup un parallèle avec votre façon de cuisiner ?
Oui, bah, tout à fait. Et je pense que si on a pensé à moi aussi, c'est pour ça, parce que je suis le seul lyonnais et je fais un gros travail de ce côté-là sur les équipes, sur la bienveillance, sur la santé de mes collaborateurs au travail, je le fais savoir. Donc peut-être que c'est ça aussi hein, qui a fait pencher la balance vers moi.
C'est ce qui vous tient à cœur, que ce soit la bonne ambiance dans votre cuisine.
On est un travail entre humains, dans un petit endroit, on est tous les uns sur les autres, on est là pour donner du plaisir à des gens. Si on passe par la souffrance pour donner du plaisir, il n'y a pas de sens pour moi. Il faut qu'on passe par le plaisir pour amener du plaisir. Et souvent, c'est ce qui était occulté dans toutes les cuisines du monde, c'est qu'on passait par la violence, la frustration, la non-gestion de ses émotions, parce qu'un homme, ça n'a pas d'émotion, alors qu'en fait, notre métier, c'est de l'émotion, quoi. Voilà, je pense que c'est surtout là, le sujet, il est qu'on travaille avec des humains et on y travaille entre humains pour donner du bonheur. Donc il faut le faire avec du bonheur.
Les résultats du Bocuse d'Or seront proclamés ce soir parmi les pays candidats, la France bien sûr, dont la team est conduite par Naïs Pirolet, 25 ans, la plus jeune candidate du concours. Les sports à présent, Coupe de France, les Lyonnais accèdent au 8e de finale en battant Chambéry 3-0, c'était samedi. En D1 féminine, l'Olympique Lyonnais s'impose face à Montpellier 2-0 et retrouve sa place de leader. En basket, en élite, l'ASVEL s'impose face à Paris après deux défaites de rang en championnat. Les Villeurbanais se sont imposés face au Paris Basket à l'Accor Arena à Bercy, 69-86. Enfin, en rugby Challenge Cup, le Loup se déplacera au Stade Français en 8e de finale. La confrontation franco-française se jouera entre le 31 mars et le 2 avril au Stade Jean Bouin à Paris. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition.